Le bureau des délégations est un auxiliaire indispensable à la justice. Ce bureau, présidé par un commissaire de police ad hoc, se compose d'officiers de paix qui exécutent, avec l'aide des commissaires de police de chaque quartier, les mandats de perquisition et même d'arrestation chez les personnes soupçonnées de complicité dans les crimes ou dans les délits. Ces délégués de l'autorité judiciaire épargnent alors aux magistrats chargés d'une instruction un temps précieux. Le prévenu, sur un signe du juge, fut alors habillé par M. Lebrun et par l'infirmier, qui se retirèrent ainsi que l'huissier. Camusot s'assit à son bureau, où il se mit à jouer avec sa plume. « Vous avez une tente !» dit brusquement Camusot à Jacques Collin. « Une tente ?» répondit avec étonnement Don Carlos Herrera. « Mais monsieur, je n'ai point de parents. Je suis l'enfant non reconnu du feu duc d'Osuna. » Et en lui-même, il se disait « Il brûle !» Allusion au jeu de cache-cache, qui d'ailleurs est une enfantine image de la lutte terrible entre la justice et le criminel. « Bah !» dit Camusot. « Allons, vous avez encore votre tante, mademoiselle Jacqueline Collin, que vous avez placée sous le nom bizarre d'Asie auprès de la demoiselle Esther. » Jacques Collin fit un insouciant mouvement d'épaule, parfaitement en harmonie avec l'air de curiosité par lequel il accueillait les paroles du juge, qu'il examinait avec une attention narquoise. « Prenez garde, » reprit Camusot. « Écoutez-moi bien. »« Je vous écoute, monsieur. » »« Votre tante est marchande au temple. Son commerce est géré par une mademoiselle Paccard, sœur d'un condamné, très honnête fille d'ailleurs, surnommée la Ronette. La justice est sur les traces de votre tante, et dans quelques heures, nous aurons des preuves décisives. Cette femme vous est bien dévouée. » « Continuez, monsieur le juge, » dit tranquillement Jacques Collin, en réponse à une pause de Camusot. « Je vous écoute. Votre tante, qui compte environ 5 ans de plus que vous, a été la maîtresse de Marat, d'odieuse mémoire. C'est de cette source ensanglantée que lui est venu le noyau de la fortune qu'elle possède. C'est selon les renseignements que je reçois, une très habile recelleuse, car on n'a pas encore de preuves contre elle. Après la mort de Marat, elle aurait appartenu, selon les rapports que je tiens entre les mains, à un chimiste condamné à mort en l'an 12 pour crime de fausse monnaie. Elle apparut comme témoin dans le procès. C'est dans cette intimité qu'elle aurait acquis des connaissances en toxicologie. Elle a été marchande à la toilette de l'an 12 à 1810. Elle a subi 2 ans de prison en 1812 et 1816 pour avoir livré des mineurs à la débauche. Vous étiez déjà condamné pour crime de faux. Vous aviez quitté la maison de banque où votre tante vous avait placé comme commis, grâce à l'éducation que vous aviez reçue et aux protections dont jouissait votre tante auprès des personnages à la dépravation desquels elle fournissait des victimes. Tout ceci, prévenu, ressemblerait peu à la grandesse des ducs d'Osuna. Persistez-vous dans vos dénégations. » Jacques Collin écoutait M. Camusot en pensant à son enfance heureuse, au collège des oratoriens, d'où il était sorti, méditation qui lui donnait un air véritablement étonné. Malgré l'habileté de sa diction interrogative, Camusot n'arracha pas un mouvement à cette physionomie placide. « Si vous avez fidèlement écrit l'explication que je vous ai donnée en commençant, vous pouvez la relire, » répondit Jacques Collin. « Je ne puis varier. Je ne suis pas allé chez la courtisane. Comment saurais-je qui elle avait pour cuisinière? Je suis tout à fait étranger aux personnes de qui vous me parlez. Nous allons procéder, malgré vos dénégations, à des confrontations qui pourront diminuer votre assurance. » Un homme déjà fusillé une fois est habitué à tout, répondit Jacques Collin avec douceur. Camusot retourna visiter les papiers saisis en attendant le retour du chef de la sûreté, dont la diligence fut extrême, car il était 11h30, l'interrogatoire avait commencé vers 10h30, et l'huissier vint annoncer au juge à voix basse l'arrivée de Bibi Lupin. « Qu'il entre !» répondit Monsieur Camusot. En entrant, Bibi Lupin, de qui l'on attendait un « c'est bien lui !» resta surpris. Il ne reconnaissait plus le visage de sa pratique dans une face criblée de petites véroles. Cette hésitation frappa le juge. « C'est bien sa taille, sa corpulence !» dit l'agent. « Ah, c'est toi, Jacques Collin !» reprit-il en examinant les yeux, la coupe du front et les oreilles. « Il y a des choses qu'on ne peut pas déguiser. C'est parfaitement lui, Monsieur Camusot. Jacques a la cicatrice d'un coup de couteau dans le bras gauche. Faites-lui ôter sa redingote. Vous allez la voir. » De nouveau, Jacques Collin fut obligé de se dépouiller de sa redingote. Bibi Lupin retroussa la manche de la chemise et montra la cicatrice indiquée. « C'est une balle, » répondit Don Carlos Herrera. « Voici bien d'autres cicatrices. »« Ah, c'est bien sa voix !» s'écria Bibi Lupin. « Votre certitude, » dit le juge, « est un simple renseignement, ce n'est pas une preuve. »« Je le sais, » répondit humblement Bibi Lupin. « Mais je vous trouverai des témoins. Déjà, l'une des pensionnaires de la maison Vauquet est là, » dit-il en regardant Collin. La figure placide que se faisait Collin ne vacilla pas. « Faites entrer cette personne, » dit péremptoirement M. Camusot, dont le mécontentement perça, malgré son apparente indifférence. Ce mouvement fut remarqué par Jacques Collin, qui comptait peu sur la sympathie de son juge d'instruction, et il tomba dans une apathie produite par la violente méditation à laquelle il se livra pour en rechercher la cause. L'huissier introduisit Madame Poiret, dont la vue inopinée occasionna chez le forçat un léger tremblement. Mais cette trépidation ne fut pas observée par le juge, dont le parti semblait pris. « Comment vous nommez-vous » demanda le juge, en procédant à l'accomplissement des formalités qui commencent toutes les dépositions et les interrogatoires. Madame Poiret, petite vieille blanche et ridée comme un riz de veau, vêtue d'une robe de soie gros bleu, déclara se nommer Christine Michel Michonneau, épouse du sieur Poiret, être âgée de 51 ans, être née à Paris, demeurée rue des Poules, au coin de la rue des Postes, et avoir pour état celui de logeuse en garni. « Vous avez habité, madame, dit le juge, une pension bourgeoise en 1818 et 1819, tenue par une dame Vauquet. Oui, monsieur, c'est là que je fis la connaissance de monsieur Poiret, ancien employé retraité, devenu mon mari, que depuis un an je garde au lit. Pauvre homme, il est bien malade. Aussi ne saurais-je rester pendant longtemps hors de ma maison. » Il se trouvait alors dans cette pension un certain Vautrin, demanda le juge. « Ah, monsieur, c'est toute une histoire. C'était un affreux galérien. Vous avez coopéré à son arrestation. C'est faux, monsieur. Vous êtes devant la justice. Prenez garde, » dit sévèrement M. Camusot. Madame Poiret garda le silence. « Rappelez vos souvenirs, » reprit Camusot. « Vous souvenez-vous bien de cet homme? Le reconnaîtriez-vous? Je le crois. Est-ce l'homme que voici ?» dit le juge. Madame Poiret mit ses conserves et regarda l'abbé Carlos Herrera. « C'est sa carrure, sa taille, mais non... « Si, monsieur le juge, » reprit-elle, « si je pouvais voir sa poitrine nue, je le reconnaîtrais à l'instant. » Le juge et le greffier ne purent s'empêcher de rire, malgré la gravité de leurs fonctions. Jacques Collin partagea leur hilarité, mais avec mesure. Le prévenu n'avait pas remis la redingote que Bibi Lupin venait de lui ôter, et sur un signe du juge, il ouvrit complaisamment sa chemise. « Voilà bien sa palatine !» « Mais elle a grisonné, monsieur Vautrin !» s'écria madame Poiret. « Que répondez-vous à cela ?» demanda le juge. « Que c'est une folle !» dit Jacques Collin. « Ah, mon Dieu, si j'avais un doute, car il n'a plus la même figure, cette voix suffirait. C'est bien lui qui m'a menacé. Ah, c'est son regard !» L'agent de la police judiciaire et cette femme n'ont pas pu, reprit le juge en s'adressant à Jacques Collin, s'entendre pour dire de vous les mêmes choses, car ni l'un ni l'autre ne vous avait vu. Comment expliquez-vous cela ? La justice a commis des erreurs encore plus fortes que celles à laquelle donnerait lieu le témoignage d'une femme qui reconnaît un homme au poil de sa poitrine et le soupçon d'un agent de police, répondit Jacques Collin. On trouve en moi des ressemblances de voix, de regard, de taille avec un grand criminel. C'est déjà vague. Quant à la réminiscence qui prouverait entre madame et mon sosie des relations dont elle ne rougit pas, vous en avez ri vous-même. Voulez-vous, monsieur, dans l'intérêt de la vérité, que je désire établir pour mon compte, plus vivement que vous ne pouvez le souhaiter pour celui de la justice, demander à cette dame Poiré, je suis espagnole, si elle se rappelle les personnes qui habitaient cette... Comment nommez-vous la maison ? Une pension bourgeoise, dit madame Poiré.
Je ne sais ce que c'est, répondit Jacques Collin.
C'est une maison où l'on dîne et où l'on déjeune par abonnement. Vous avez raison, s'écria Camusot qui fit un signe de tête favorable à Jacques Collin, tant il fut frappé de l'apparente bonne foi avec laquelle il lui fournissait les moyens d'arriver à un résultat. Essayez de vous rappeler les abonnés qui se trouvaient dans la maison lors de l'arrestation de Jacques Collin. Il y avait monsieur de Rastignac, le docteur Bianchon, le père Goriot, mademoiselle Taillefer. Bien, dit le juge, qui n'avait pas cessé d'observer Jacques Collin, dont la figure fut impassible. Eh bien, ce père Goriot, il est mort, dit madame Poiré.
Monsieur, dit Jacques Collin,
j'ai plusieurs fois rencontré chez Lucien un monsieur de Rastignac, lié, je crois, avec madame de Nucingen. Et si c'est lui dont il serait question, jamais il ne m'a pris pour le forçat avec lequel on essaye de me confondre.
Monsieur de Rastignac et le docteur Bianchon, dit le juge, occupent tous les deux des positions sociales, telles que leur témoignage, s'il vous est favorable, suffirait pour vous faire élargir.
Coquart, préparez les citations. En quelques minutes, les formalités de la déposition de madame Poiré furent terminées. Coquart lui relut le procès-verbal de la scène qui venait d'avoir lieu, et elle le signa. Mais le prévenu refusa de signer, en se fondant sur l'ignorance où il était des formes de la justice française.
« En voilà bien assez pour aujourd'hui, » reprit monsieur Camusot.
« Vous devez avoir besoin de prendre quelques aliments. Je vais vous faire reconduire à la conciergerie. »«
Hélas, je souffre trop pour manger. » dit Jacques Collin.
Camusot voulait faire coïncider le moment du retour de Jacques Collin avec l'heure de la promenade des accusés dans le préau. Mais il voulait avoir du directeur de la conciergerie une réponse à l'ordre qu'il lui avait donné le matin, et il sonna pour envoyer son huissier. L'huissier vint et dit que la portière de la maison du Quai Malaquais avait à lui remettre une pièce importante relative à monsieur Lucien de Rubempré. Cet incident devint si grave qu'il fit oublier son dessein à Camusot.
« Qu'elle entre, » dit-il.
« Pardon, excuse, monsieur, » fit la portière, en saluant le juge et l'abbé Carlos tour à tour. « Nous avons été si troublés, mon mari et moi, par la justice, les deux fois qu'elle est venue, que nous avons oublié dans notre commode une lettre à l'adresse de monsieur Lucien, et pour laquelle nous avons payé 10 sous. » quoiqu'elle soit de Paris, car elle est très lourde. Voulez-vous me rembourser le port ? Dieu sait quand nous reverrons nos locataires.
Cette lettre vous a été remise par le facteur ?
Demanda Camusot, après avoir examiné très attentivement l'enveloppe.
Oui, monsieur.
Coquart, vous allez dresser procès-verbal de cette déclaration. Allez, ma bonne femme, donnez vos noms, vos qualités. Camusot fit prêter serment à la portière, puis il dicta le procès-verbal. Pendant l'accomplissement de ces formalités, il vérifiait le timbre de la poste, qui portait les dates des heures de levée et de distribution, ainsi que la date du jour. Or, cette lettre, remise chez Lucien le lendemain de la mort d'Esther, avait été sans nul doute écrite et jetée à la poste le jour de la catastrophe.
Maintenant, on pourra juger de la stupéfaction de Monsieur Camusot en lisant cette lettre, écrite et signée par celle que la justice croyait être la victime d'un crime. Esther à Lucien, lundi 13 mai 1830. Mon dernier jour, à 10h du matin. Mon Lucien, je n'ai pas une heure à vivre. À 11h, je serai morte. Je mourrai sans aucune douleur. J'ai payé 50 000 francs, une jolie petite groseille noire, contenant un poison qui tue avec la rapidité de l'éclair. Ainsi, ma biche, tu pourras te dire, ma petite Esther n'a pas souffert. Oui, je n'aurais souffert qu'en écrivant ces pages. Ce monstre qui m'a si chèrement acheté, en sachant que le jour où je me regarderai comme à lui n'aurait pas de lendemain. Nucingen vient de partir, ivre comme un ours qu'on aurait grisé. Pour la première et la dernière fois de ma vie, j'ai pu comparer mon ancien métier de fille de joie à la vie de l'amour. Superposer la tendresse qui s'épanouit dans l'infini à l'horreur du devoir qui voudrait s'anéantir au point de ne pas laisser de place au baiser. Il fallait ce dégoût pour trouver la mort adorable. J'ai pris un bain. J'aurais voulu pouvoir faire venir le confesseur du couvent où j'ai reçu le baptême, me confesser afin de me laver l'âme. Mais c'est assez de prostitution comme cela. Ce serait profaner un sacrement. Et je me sens d'ailleurs baigné dans les eaux d'un repentir sincère. Dieu fera de moi ce qu'il voudra. Laissons toutes ces pleurnicheries. Je veux être pour toi ton Esther jusqu'au dernier moment. Ne pas t'ennuyer de ma mort, de l'avenir, du bon Dieu, qui ne serait pas bon s'il me tourmentait dans l'autre vie, quand j'ai dévoré tant de douleurs dans celle-ci. J'ai ton délicieux portrait, fait par Madame de Mirbel devant moi. Cette feuille d'ivoire me consolait de ton absence. Je la regarde avec ivresse, en t'écrivant mes dernières pensées, en te peignant les derniers battements de mon cœur. Je te mettrai sous ce pli le portrait, car je ne veux pas qu'on le pille ni qu'on le vende. La seule pensée de savoir ce qui a fait ma joie, confondue sous le vitrage d'un marchand, parmi des dames et des officiers de l'Empire ou des drôleries chinoises, me donne la petite mort. Ce portrait, mon mignon, efface-le, ne le donne à personne, à moins que ce présent ne te rende le cœur de cette latte qui marche et qui porte des robes, de cette Clotilde de Grandlieu qui te fera des noirs en dormant tant elle a les os pointus. Oui, j'y consens. Je te serai encore bonne à quelque chose comme de mon vivant. Ah, pour te faire plaisir, ou si cela t'eût seulement fait rire, je me serais tenue devant un brasier en ayant dans la bouche une pomme pour te la cuire. Ma mort te sera donc utile encore. J'aurais troublé ton ménage. Oh, cette Clotilde, je ne la comprends pas. Pouvoir être ta femme, porter ton nom, ne te quitter ni jour, ni nuit, être à toi, et faire des façons. Il faut être du faubourg Saint-Germain pour cela, et n'avoir pas 10 livres de chair sur les os. Pauvre Lucien, cher ambitieux manqué, je songe à ton avenir. Va, tu regretteras plus d'une fois ton pauvre chien fidèle, cette bonne fille qui volait pour toi, qui se serait laissée traîner en cour d'assises pour assurer ton bonheur, dont la seule occupation était de rêver à tes plaisirs, de t'en inventer, qui avait de l'amour pour toi dans les cheveux, dans les pieds, dans les oreilles. Enfin, ta ballerina, dont tous les regards étaient autant de bénédictions, qui durant 6 ans n'a pensé qu'à toi, qui fut si bien ta chose que je n'ai jamais été qu'une émanation de ton âme, comme la lumière est celle du soleil. Mais enfin, faute d'argent et d'honneur, hélas, je ne puis pas être ta femme. J'ai toujours pourvu à ton avenir en te donnant tout ce que j'ai. Viens aussitôt cette lettre reçue et prends ce qui sera sous mon oreiller, car je me défie des gens de la maison. Vois-tu, je veux être belle en morte. Je me coucherai, je m'étendrai sur mon lit. Je me poserai, quoi. Puis je presserai la groseille contre le voile du palais. Et je ne serai défigurée ni par des convulsions, ni par une posture ridicule. Je sais que Madame de Sérisy s'est brouillée avec toi rapport à moi. Mais vois-tu, mon chat, quand elle saura que je suis morte, elle te pardonnera. Tu la cultiveras, elle te mariera bien, si les grands lieux persistent dans leur refus. Mon Nini, je ne veux pas que tu fasses de grands hélas en apprenant ma mort. D'abord, je dois te dire que l'heure d'11 heures du lundi 13 mai n'est que la terminaison d'une longue maladie qui a commencé le jour où, sur la terrasse de Saint-Germain, vous m'avez rejeté dans mon ancienne carrière. On a mal à l'âme comme on a mal au corps. Seulement, l'âme ne peut pas se laisser bêtement souffrir comme le corps. Le corps ne soutient pas l'âme comme l'âme soutient le corps. Et l'âme a le moyen de se guérir dans la réflexion qui fait recourir aux litres de charbon des couturières. Tu m'as donné toute une vie avant-hier, en me disant que si Clotilde te refusait encore, tu m'épouserais. C'eût été pour nous deux un grand malheur. Je serais morte davantage, pour ainsi dire, car il y a des morts plus ou moins amères. Jamais le monde ne nous aurait acceptés. Voici 2 mois que je réfléchis à bien des choses, va. Une pauvre fille est dans la boue, comme j'y étais avant mon entrée au couvent. Les hommes la trouvent belle, ils la font servir à leur plaisir en se dispensant d'égards. Ils la renvoient à pied, après être allés la chercher en voiture, s'ils ne lui crachent pas à la figure. C'est qu'elle est préservée de cet outrage par sa beauté. Mais moralement, ils font pis. Eh bien, que cette fille hérite de 5 à 6 millions, elle sera recherchée par des princes. Elle sera saluée avec respect quand elle passera dans sa voiture. Elle pourra choisir parmi les plus anciens écussons de France et de Navarre. Ce monde, qui nous aurait dit raca en voyant 2 beaux êtres unis et heureux, a constamment salué Madame de Staël, malgré ses romans en action, parce qu'elle avait 200 000 livres de rente. Le monde, qui plie devant l'argent ou la gloire, ne veut pas plier devant le bonheur ni devant la vertu, car j'aurais fait du bien. Oh, combien de larmes aurais-je séchées ! Autant, je crois, que j'en ai versé. Oui, j'aurais voulu ne vivre que pour toi et pour la charité. Voilà les réflexions qui me rendent la mort adorable. Ainsi, ne fais pas de lamentation, mon bon chat. Dis-toi souvent, il y a eu 2 bonnes filles, 2 belles créatures, qui toutes 2 sont mortes pour moi, sans m'en vouloir, qui m'adoraient. Élève dans ton cœur un souvenir à Coralie, à Esther, et va ton train. Te souviens-tu du jour où tu m'as montré vieille, ratatinée, en capote vermelon, en douillette puce à taches de graisse noire, la maîtresse d'un poète d'avant la Révolution, à peine réchauffée par le soleil, quoiqu'elle se fût mise en espalier aux Tuileries, et s'inquiétant d'un horrible carlin, le dernier des carlins. Tu sais, elle avait eu des laquais, des équipages, un hôtel. Je t'ai dit alors, il vaut mieux mourir à 30 ans. Eh bien, ce jour-là, tu m'as trouvée pensive, tu as fait des folies pour me distraire, et entre 2 baisers, je t'ai dit encore. Tous les jours, les jolies femmes sortent du spectacle avant la fin. Eh bien, je n'ai pas voulu voir la dernière pièce. Voilà tout. Tu dois me trouver bavarde, monsieur mon dernier ragot. Je t'écris comme je te parlais, et je veux te parler gaiement. Les couturières qui se lamentent m'ont toujours fait horreur. Tu sais que j'avais su bien mourir une fois déjà, à mon retour de ce fatal bal de l'opéra, où l'on t'a dit que j'avais été fille. Oh non, mon Nini, ne donne jamais ce portrait. Si tu savais avec quel flot d'amour je viens de m'abîmer dans tes yeux, en les regardant avec ivresse pendant une pause que j'ai faite. Tu penserais, en y reprenant l'amour que j'ai tâché d'incruster sur cet ivoire, que l'âme de ta biche aimée est là. Une morte qui demande l'aumône, en voilà du comique. Allons, il faut savoir se tenir tranquille dans sa tombe. Tu ne sais pas combien ma mort paraîtrait héroïque aux imbéciles s'ils savaient que cette nuit, Nucingen m'a offert 2 millions si je voulais l'aimer comme je t'aimais. Il sera joliment volé quand il saura que je lui ai tenu parole en crevant de lui. J'ai tout tenté pour continuer à respirer l'air que tu respires. J'ai dit à ce gros voleur, « Voulez-vous être aimé comme vous le demandez ? Je m'engagerai même à ne jamais revoir Lucien. Que faut-il faire ? A-t-il demandé. « Donnez-moi 2 millions pour lui. » Non, si tu avais vu sa grimace, ah, j'en aurais ri si ça n'avait pas été si tragique pour moi. Évitez-vous un refus, lui ai-je dit. Je le vois, vous tenez plus à 2 millions qu'à moi. Une femme est toujours bien aise de savoir ce qu'elle vaut. Et j'ajoutais en lui tournant le dos. Ce vieux coquin saura dans quelques heures que je ne plaisantais pas. Qu'est-ce qui te fera comme moi, taré dans les cheveux ? Bah, je ne veux plus penser à rien de la vie. Je n'ai plus que 5 minutes. Je les donne à Dieu. N'en sois pas jaloux, mon cher ange. Je veux lui parler de toi, lui demander ton bonheur pour prix de ma mort et de mes punitions dans l'autre monde. Ça m'ennuie bien d'aller dans l'enfer. J'aurais voulu voir les anges pour savoir s'ils te ressemblent. Adieu, mon Nini. Adieu. Je te bénis de tout mon malheur. Jusque dans la tombe, je serai ton Esther. 11 heures sonne. J'ai fait ma dernière prière. Je vais me coucher pour mourir. Encore une fois, adieu. Je voudrais que la chaleur de ma main laisse là mon âme, comme j'y mets un dernier baiser. Et je veux encore une fois te nommer mon gentil Minet, quoique tu sois la cause de la mort de ton Esther. » Un mouvement de jalousie pressa le cœur du juge en terminant la lecture de la seule lettre d'un suicide qu'il eût vue écrite avec cette gaieté, quoique ce fût une gaieté fébrile et le dernier effort d'une tendresse aveugle. Qu'a-t-il donc de particulier pour être aimé ainsi ? Pensa-t-il en répétant ce que disent tous les hommes qui n'ont pas le don de plaire aux femmes. S'il vous est possible de prouver, non seulement que vous n'êtes pas Jacques Collin, force à libérer, mais encore que vous êtes bien réellement Don Carlos Herrera, chanoine de Tolède, envoyé secret de Sa Majesté Ferdinand VII, dit le juge à Jacques Collin, vous serez mis en liberté, car l'impartialité qu'exige mon ministère m'oblige à vous dire que je reçois à l'instant une lettre de la demoiselle Esther Gobseck, où elle avoue l'intention de se donner la mort, et où elle émet sur ses domestiques des soupçons qui paraissent les désigner comme étant les auteurs de la soustraction des 750 000 francs. En parlant, M. Camusot comparait l'écriture de la lettre avec celle du testament, et il fut évident pour lui que la lettre était bien écrite par la même personne qui avait fait le testament. Monsieur, vous vous êtes trop pressé de croire à un crime. Ne vous pressez pas de croire à un vol. Ah, oh, dit Camusot, en jetant un regard de juge sur le prévenu. Ne croyez pas que je me compromette en vous disant que cette somme peut se retrouver, reprit Jacques Collin en faisant entendre au juge qu'il comprenait son soupçon. Cette pauvre fille était bien aimée par ses gens, et si j'étais libre, je me chargerai de chercher un argent qui maintenant appartient à l'être que j'aime le plus au monde, à Lucien. Auriez-vous la bonté de me permettre de lire cette lettre ? Ce sera bientôt fait. C'est la preuve de l'innocence de mon cher enfant. Vous ne pouvez pas craindre que je l'anéantisse, ni que j'en parle. Je suis au secret. Au secret ? S'écria le magistrat. Vous n'y serez plus. C'est moi qui vous prie d'établir le plus promptement possible votre état. Ayez recours à votre ambassadeur, si vous voulez. » Et il tendit la lettre à Jacques Collin. Camusot était heureux de sortir d'embarras, de pouvoir satisfaire le procureur général, Mesdames de Maufrigneuse et de Sérisy. Cependant, il examina froidement et curieusement la figure de son prévenu pendant qu'il lisait la lettre de la courtisane. Et malgré la sincérité des sentiments qui s'y peignaient, il se disait « C'est pourtant bien là une physionomie de bagne. Voilà comme on l'aime, » dit Jacques Collin en rendant la lettre. Et il fit voir à Camusot une figure baignée de larmes. « Si vous le connaissiez, » reprit-il, « c'est une âme si jeune, si fraîche, une beauté si magnifique, un enfant, un poète. On éprouve irrésistiblement le besoin de se sacrifier à lui, de satisfaire ses moindres désirs. Ce cher Lucien est si ravissant quand il est câlin. Allons, » dit le magistrat, en faisant encore un effort pour découvrir la vérité. « Vous ne pouvez pas être Jacques Collin. »« Non, monsieur, » répondit le forçat. Et Jacques Collin se fit plus que jamais Don Carlos Herrera. Dans son désir de terminer son œuvre, il s'avança vers le juge, l'emmena dans l'embrasure de la croisée et prit les manières d'un prince de l'Église en prenant le ton des confidences. « J'aime tant cet enfant, monsieur, que s'il fallait être le criminel pour qui vous me prenez, afin d'éviter un désagrément à cette idole de mon cœur, je m'accuserai, » dit-il à voix basse. « J'imiterai la pauvre fille qui s'est tuée à son profit. Aussi, monsieur, vous suppliez-je de m'accorder une faveur, c'est de mettre Lucien en liberté sur le champ. Mon devoir s'y oppose, » dit Camusot avec bonhomie. Mais s'il est avec le ciel des accommodements, la justice sait avoir des égards, et si vous pouvez me donner de bonnes raisons, parlez, ceci ne sera pas écrit. Eh bien, reprit Jacques Collin, trompé par la bonhomie de Camusot, je sais tout ce que ce pauvre enfant souffre en ce moment. Il est capable d'attenter à ses jours en se voyant en prison. Oh, quant à cela, dit Camusot en faisant un haut-le-corps, vous ne savez pas qui vous obligeait en m'obligeant, ajouta Jacques Collin, qui voulut remuer d'autres cordes. Vous rendez service à un ordre plus puissant que des comtesses de Sérisy, que des duchesses de Maufrigneuse, qui ne vous pardonneront pas d'avoir eu dans votre cabinet leurs lettres, dit-il en montrant deux liasses parfumées. Mon ordre a de la mémoire. Monsieur, dit Camusot, assez. Cherchez d'autres raisons à me donner. Je me dois autant aux prévenus qu'à la vindicte publique. Eh bien, croyez-moi, je connais Lucien. C'est une âme de femme, de poète et de méridionale, sans consistance ni volonté, reprit Jacques Collin, qui crut avoir enfin deviné que le juge leur était acquis. Vous êtes certain de l'innocence de ce jeune homme. Ne le tourmentez pas. Ne le questionnez point. Remettez-lui cette lettre. Annoncez-lui qu'il est l'héritier d'Esther et rendez-lui la liberté. Si vous agissez autrement, vous en serez au désespoir, tandis que si vous le relaxez purement et simplement, je vous expliquerai, moi, gardez-moi au secret, demain, ce soir, tout ce qui pourrait vous sembler mystérieux dans cette affaire et les raisons de la poursuite acharnée dont je suis l'objet. Mais je risquerai ma vie. On en veut à ma tête depuis 5 ans. Lucien libre, riche, et marié à Clotilde de Grandlieu. Ma tâche ici-bas est accomplie. Je ne défendrai plus ma peau. Mon persécuteur est un espion de votre dernier roi. Ah, Corentin ! Ah, il se nomme Corentin ! Je vous remercie. Eh bien, monsieur, voulez-vous me promettre de faire ce que je vous demande? Un juge ne peut et ne doit rien promettre. Cocard, dites à l'huissier et aux gendarmes de reconduire le prévenu à la conciergerie. Je donnerai des ordres pour que ce soir vous soyez à la pistole, ajouta-t-il avec douceur, en faisant un léger salut de tête au prévenu. Frappé de la demande que Jacques Collin venait de lui adresser, et se rappelant l'assistance qu'il avait mise à être interrogé le premier, en s'appuyant sur son état de maladie, Camusot reprit toute sa défiance. En écoutant ses soupçons indéterminés, il vit le prétendu moribond, allant, marchant comme un Hercule, ne faisant plus aucune des singeries si bien jouées qui en avaient signalé l'entrée. « Monsieur !» Jacques Collin se retourna. « Mon greffier, malgré votre refus de le signer, va vous lire le procès-verbal de votre interrogatoire. » Le prévenu jouissait d'une admirable santé. Le mouvement par lequel il vint s'asseoir près du greffier fut un dernier trait de lumière pour le juge. « Vous avez été promptement guéri, » dit Camusot. « Je suis pincé, » pensa Jacques Collin. Puis il répondit à haute voix. « La joie, monsieur, est la seule panacée qui existe. Cette lettre, la preuve d'une innocence dont je ne doutais pas, voilà le grand remède. » Le juge suivit son prévenu d'un regard pensif lorsque l'huissier et les gendarmes l'entourèrent. Puis il fit le mouvement d'un homme qui se réveille et jeta la lettre d'Esther sur le bureau de son greffier. « Coquart, copiez cette lettre. S'il est dans la nature de l'homme de se défier de ce qu'on le supplie de faire quand la chose demandée est contre les intérêts ou contre son devoir, souvent même quand elle lui est indifférente, ce sentiment est la loi du juge d'instruction. Plus le prévenu, dont l'état n'était pas encore fixé, fit apercevoir de nuages à l'horizon dans le cas où Lucien serait interrogé, plus cet interrogatoire parut nécessaire à Camusot. Cette formalité n'eût pas été, d'après le code et les usages, indispensable, qu'elle était exigée par la question de l'identité de l'abbé Carlos. Dans toutes les carrières, il existe une conscience de métier. À défaut de curiosité, Camusot aurait questionné Lucien par honneur de magistrat, comme il venait de questionner Jacques Collin en déployant les ruses que se permet le magistrat le plus intègre. Le service à rendre, son avancement, tout passait chez Camusot après le désir de savoir la vérité, de la deviner, quitte à la terre. Il jouait du tambour sur les vitres, en s'abandonnant au cours fluviatile de ses conjectures. Car alors, la pensée est comme une rivière qui parcourt mille contrées. Amant de la vérité, les magistrats sont comme les femmes jalouses. Ils se livrent à mille suppositions et les fouillent avec le poignard du soupçon, comme le sacrificateur antique éventrait les victimes. Puis ils s'arrêtent non pas au vrai, mais au probable. Et ils finissent par entrevoir le vrai. Une femme interroge un homme aimé, comme le juge interroge un criminel. En de telles dispositions, un éclair, un mot, une inflexion de voix, une hésitation, suffisent pour indiquer le fait, la trahison, le crime caché. La manière dont il vient de peindre son dévouement à son fils, si c'est son fils, me ferait croire qu'il s'est trouvé dans la maison de cette fille pour veiller au grain. Et ne se doutant pas que l'oreiller de la morte cachait un testament, il aura pris pour son fils les 750 000 francs par provision. Voilà la raison de sa promesse de faire retrouver la somme. Monsieur de Rubempré se doit à lui-même et doit à la justice d'éclaircir l'état civil de son père et me promettre la protection de son ordre. Son ordre, si je n'interroge pas Lucien. » Il resta sur cette pensée. Comme on vient de le voir, un magistrat instructeur dirige un interrogatoire à son gré. Libre à lui d'avoir de la finesse ou d'en manquer. Un interrogatoire, ce n'est rien, et c'est tout. L'agile à faveur. Camusot sonna, l'huissier était revenu. Il donna l'ordre d'aller chercher M. Lucien de Rubempré, mais en recommandant qu'il ne communiquât avec qui que ce soit pendant le trajet. Il était alors 2 heures après-midi. « Il y a un secret, » se dit en lui-même le juge, « et ce secret doit être bien important. Le raisonnement de mon amphibie, qui n'est ni prêtre, ni séculier, ni forçat, ni espagnol, mais qui ne veut pas laisser sortir de la bouche de son protégé quelques paroles terribles, et ceci. Le poète est faible, il est femme, il n'est pas comme moi qui suis l'Hercule de la diplomatie, et vous lui arracherez facilement notre secret. Eh bien, nous allons tout savoir de l'innocent. » Et il continua de frapper le bord de sa table avec son couteau d'ivoire, pendant que son greffier copiait la lettre d'Esther. Combien de bizarreries dans l'usage de nos facultés! Camusot supposait tous les crimes possibles, et passait à côté du seul que le prévenu avait commis, le faux testament au profit de Lucien. Que ceux dont l'envie attaque la position des magistrats veuillent bien songer à cette vie passée en des soupçons continuels, à ces tortures imposées par ces gens à leur esprit, car les affaires civiles ne sont pas moins tortueuses que les instructions criminelles. Et ils penseront peut-être que le prêtre et le magistrat ont un harnais également lourd, également garni de pointes à l'intérieur. Toute profession, d'ailleurs, a son cilice et ses casse-têtes chinois. Vers 2 heures, M. Camusot vit entrer Lucien de Rubempré. Pâle, défait, les yeux rouges et gonflés, enfin, dans un état d'affaissement qui lui permit de comparer la nature à l'art, le moribond vrai au moribond de théâtre. Le trajet fait de la conciergerie au cabinet du juge, entre 2 gendarmes, précédés d'un huissier, avait porté le désespoir au comble chez Lucien. Il est dans l'esprit du poète de préférer un supplice à un jugement. En voyant cette nature entièrement dénuée du courage moral qui fait le juge et qui venait de se manifester si puissamment chez l'autre prévenu, M. Camusot eut pitié de cette facile victime, et ce mépris lui permit de porter des coups décisifs, en lui laissant sur le terrain cette affreuse liberté d'esprit qui distingue le tireur quand il s'agit d'abattre des poupées. Remettez-vous, monsieur de Rubempré, vous êtes en présence d'un magistrat empressé de réparer le mal que fait involontairement la justice par une arrestation préventive quand elle est sans fondement. Je vous crois innocent, vous allez être libre immédiatement. Voici la preuve de votre innocence. C'est une lettre gardée par votre portière en votre absence et qu'elle vient d'apporter. Dans le trouble causé par la descente de la justice et par la nouvelle de votre arrestation à Fontainebleau, cette femme avait oublié cette lettre qui vient de Mademoiselle Esther Gobseck. Lisez. Lucien prit la lettre, la lut et fondit en larmes. Il sanglota sans pouvoir articuler une parole. Après 1 quart d'heure, temps pendant lequel Lucien eut beaucoup de peine à retrouver de la force, le greffier lui présenta la copie de la lettre et le pria de signer un « pour copie conforme à l'original à représenter à première réquisition tant que durera l'instruction du procès » en lui offrant de collationner. Mais Lucien s'en reporta naturellement à la parole de Coquart quant à l'exactitude. « Monsieur, dit le juge d'un air plein de bonhomie, il est néanmoins difficile de vous mettre en liberté sans avoir rempli nos formalités et sans vous avoir adressé quelques questions. C'est presque comme témoin que je vous requiers de répondre. À un homme comme vous, je croirais presque inutile de faire observer que le serment de dire toute la vérité n'est pas ici seulement un appel à votre conscience, mais encore une nécessité de votre position. Ambigu pour quelques instants. La vérité ne peut rien sur vous, quelle qu'elle soit, mais le mensonge vous enverrait en cour d'assises et me forcerait à vous faire reconduire à la conciergerie. Tandis qu'en répondant franchement à mes questions, vous coucherez ce soir chez vous et vous serez réhabilité par cette nouvelle que publieront les journaux. Monsieur de Rubempré, arrêté hier à Fontainebleau, a été sur le champ élargi après un très court interrogatoire. Ce discours produisit une vive impression sur Lucien, et en voyant les dispositions de son prévenu, le juge ajouta « Je vous le répète, vous étiez soupçonné de complicité dans un meurtre par empoisonnement sur la personne de la demoiselle Esther. il y a preuve de son suicide, tout est dit. Mais on a soustrait une somme de 750 000 francs qui dépend de la succession, et vous êtes l'héritier. Il y a là malheureusement un crime. Ce crime a précédé la découverte du testament. Or la justice a des raisons de croire qu'une personne qui vous aime, autant que vous aimez cette demoiselle Esther, s'est permis ce crime à votre profit. « Ne m'interrompez pas, » dit Camusot, en imposant par un geste silence à Lucien qui voulait parler. « Je ne vous interroge pas encore. Je veux vous faire comprendre combien votre honneur est intéressé dans cette question. Abandonnez le faux, le misérable point d'honneur qui lie entre les complices, et dites toute la vérité. » On a dû déjà remarquer l'excessive disproportion des armes dans cette lutte entre les prévenus et les juges d'instruction. Certes, la négation habilement maniée a pour elle l'absolu de sa forme et suffit à la défense du criminel, mais c'est en quelque sorte une panoplie qui devient écrasante quand le stylet de l'interrogation y trouve un joint. Dès que la dénégation est insuffisante contre certains faits évidents, le prévenu se trouve entièrement à la discrétion du juge. Supposez maintenant un demi-criminel, comme Lucien, qui, sauvé d'un premier naufrage de sa vertu, pourrait s'amender et devenir utile à son pays. Il périra dans les traquenards de l'instruction. Le juge rédige un procès-verbal très sec, une analyse fidèle des questions et des réponses. Mais de ses discours insidieusement paternels, de ses remontrances captieuses dans le genre de celle-ci, rien n'en reste. Les juges de la juridiction supérieure et les jurés voient les résultats sans connaître les moyens. Aussi, selon quelques bons esprits, le jury serait-il excellent, comme en Angleterre, pour procéder à l'instruction. La France a joui de ce système pendant un certain temps. Sous le code de Brumaire en IV, cette institution s'appelait le jury d'accusation, par opposition au jury de jugement. Quant au procès définitif, si l'on en revenait au jury d'accusation, il devrait être attribué au cour royale, sans concours de juré. « Maintenant, dit Camusot après une pause, comment vous appelez-vous ? Monsieur Coquart, attention, dit-il au greffier. Lucien Chardon de Rubempré. Vous êtes né à Angoulême. » Et Lucien donna le jour, le mois et l'année. Vous n'avez pas eu de patrimoine, aucun. Vous avez néanmoins fait, pendant un premier séjour à Paris, des dépenses considérables relativement à votre peu de fortune. Oui, monsieur, mais à cette époque, j'ai eu dans mademoiselle Coralie une amie excessivement dévouée et que j'ai eu le malheur de perdre. Ce fut le chagrin causé par cette mort qui me ramena dans mon pays. « Bien, monsieur, dit Camusot, je vous loue de votre franchise, elle sera bien appréciée. » Lucien entrait, comme on le voit, dans la voie d'une confession générale. « Vous avez fait des dépenses bien plus considérables encore à votre retour d'Angoulême à Paris, reprit Camusot. Vous avez vécu comme un homme qui aurait environ 60 000 francs de rente. » « Oui, monsieur. » « Qui vous fournissait cet argent ?»« Mon protecteur, l'abbé Carlos Herrera. » « Où l'avez-vous connu ?»« Je l'ai rencontré sur la grande route, au moment où j'allais me débarrasser de la vie par un suicide. » « Vous n'aviez jamais entendu parler de lui dans votre famille, à votre mère ?»« Jamais. » « Votre mère ne vous a jamais dit avoir rencontré d'Espagnol ?»« Jamais. » « Pouvez-vous vous rappeler le mois, l'année où vous vous êtes lié avec la demoiselle Esther ?»« Vers la fin de 1823, à un petit théâtre de boulevard. » »« Elle a commencé par vous coûter de l'argent. » »« Oui, monsieur. » Dernièrement, dans le désir d'épouser mademoiselle de Grandlieu, vous avez acheté les restes du château de Rubempré. Vous y avez joint des terres pour 1 000 000. Vous avez dit à la famille Grandlieu que votre sœur et votre beau-frère venaient de faire un héritage considérable et que vous deviez ces sommes à leur libéralité. Avez-vous dit cela, monsieur, à la famille Grandlieu ?
Oui, monsieur.
Vous ignorez la cause de la rupture de votre mariage ?
Entièrement, monsieur.
Eh bien, la famille de Grandlieu a envoyé chez votre beau-frère un des plus respectables avoués de Paris pour y prendre des renseignements. À Angoulême, l'avoué, d'après les aveux mêmes de votre sœur et de votre beau-frère, a su que non seulement il vous avait prêté peu de choses, mais encore que leur héritage se composait d'immeubles. Assez important, il est vrai, mais la somme des capitaux s'élevait à peine à 200 000 francs. Vous ne devez pas trouver étrange qu'une famille comme celle de Grandlieu recule devant une fortune dont l'origine ne se justifie pas. Voilà, monsieur, où vous a conduit un mensonge. » Lucien fut glacé par cette révélation, et le peu de force d'esprit qu'il conservait l'abandonna. La police et la justice savent tout ce qu'elles veulent savoir, dit Camusot. Songez bien à ceci. Maintenant, reprit-il en pensant à la qualité de père que s'était donné Jacques Collin, connaissez-vous qui est ce prétendu Carlos Herrera ?
Oui, monsieur, mais je l'ai su trop tard.
Comment trop tard ? Expliquez-vous.
Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un espagnol, c'est
un forçat évadé, dit vivement le juge.
Oui, répondit Lucien.
Quand le fatal secret me fut révélé, j'étais son obligé. J'avais cru me lier avec un respectable ecclésiastique.
Jacques Collin, dit le juge en commençant une phrase.
Oui, Jacques Collin, répéta Lucien, c'est son nom.
Bien.
Jacques Collin, reprit M. Camusot, vient d'être reconnu tout à l'heure par une personne. Et s'il nie encore son identité, c'est, je crois, dans votre intérêt. Mais je vous demandais si vous saviez qui est cet homme dans le but de relever une autre imposture de Jacques Collin. Lucien eut aussitôt comme un fer rouge dans les entrailles en entendant cette terrifiante observation.
Ignorez-vous, dit le juge en continuant, qu'il prétend être votre père pour justifier l'extraordinaire affection dont vous êtes l'objet.
Lui, mon père ! Oh, monsieur, il a dit cela !
Soupçonnez-vous d'où provenaient les sommes qu'il vous remettait ? Car, s'il faut en croire la lettre que vous avez entre les mains, la demoiselle Esther, cette pauvre fille, vous aurait rendu plus tard les mêmes services que la demoiselle Coralie. Mais vous êtes resté, comme vous venez de le dire, pendant quelques années à vivre, et très splendidement, sans rien recevoir d'elle.
C'est à vous, monsieur, que je demanderai de me dire, s'écria Lucien, où les forçats puisent de l'argent.
Un Jacques Collin, mon père, oh ma pauvre mère!
Et il fondit en larmes. Greffier, donnez lecture au prévenu de la partie de l'interrogatoire du prétendu Carlos Herrera, dans laquelle il s'est dit le père de Lucien de Rubempré.
Le poète écouta cette lecture dans un silence et dans une contenance qui fit peine à voir.
« Je suis perdu !» s'écria-t-il. « On ne se perd pas dans la voie de l'honneur et de la vérité, » dit le juge.
« Mais vous traduirez Jacques Collin en cour d'assises ?» demanda Lucien.
« Certainement !» répondit Camusot, qui voulait continuer à faire causer Lucien.
« Achevez votre pensée !»
Mais malgré les efforts et les remontrances du juge, Lucien ne répondit plus. La réflexion était venue trop tard, comme chez tous les hommes qui sont esclaves de la sensation. Là est la différence entre le poète et l'homme d'action. L'un se livre au sentiment pour le reproduire en images vives, il ne juge qu'après, tandis que l'autre sent et juge à la fois. Lucien resta morne, pâle. Il se voyait au fond du précipice où l'avait fait rouler le juge d'instruction, à la bonhomie de qui, lui, poète, il s'était laissé prendre. Il venait de trahir non pas son bienfaiteur, mais son complice, qui, lui, avaient défendu leur position avec un courage de lion, avec une habileté toute d'une pièce. Là où Jacques Collin avait tout sauvé par son audace, Lucien, l'homme d'esprit, avait tout perdu par son inintelligence et par son défaut de réflexion. Ce mensonge infâme et qui l'indignait servait de paravent à une plus infâme vérité. Confondu par la subtilité du juge, épouvanté par sa cruelle adresse, par la rapidité des coups qu'il avait portés, en se servant des fautes d'une vie mise à jour, comme de crocs, pour fouiller sa conscience. Lucien était là, semblable à l'animal que le billot de l'abattoir a manqué. Libre et innocente à son entrée dans ce cabinet, en un instant, il se trouvait criminel par ses propres aveux. Enfin, dernière raillerie sérieuse, le juge, calme et froid, faisait observer à Lucien que ses révélations étaient le fruit d'une méprise. Camusot pensait à la qualité de père prise par Jacques Collin, tandis que Lucien, tout entier à la crainte de voir son alliance avec un forçat évadé devenir publique, avait imité la célèbre inadvertance des meurtriers d'Ibicus. L'une des gloires de Royer-Collard est d'avoir proclamé le triomphe constant des sentiments naturels sur les sentiments imposés, d'avoir soutenu la cause de l'antériorité des serments en prétendant que la loi de l'hospitalité, par exemple, devait lier au point d'annuler la vertu du serment judiciaire. Il a confessé cette théorie à la face du monde, à la tribune française. Il a courageusement vanté les conspirateurs. Il a montré qu'il était humain d'obéir à l'amitié plutôt qu'à des lois tyranniques tirées de l'arsenal social pour telle ou telle circonstance. Enfin, le droit naturel a des lois qui n'ont jamais été promulguées et qui sont plus efficaces, mieux connues que celles forgées par la société. Lucien venait de méconnaître, et à son détriment, la loi de solidarité qui l'obligeait à se taire et à laisser Jacques Collin se défendre. Bien plus, il l'avait chargé. Dans son intérêt, cet homme devait être pour lui et toujours Carlos Herrera. Monsieur Camusot jouissait de son triomphe. Il tenait deux coupables. Il avait abattu sous la main de la justice l'un des favoris de la mode et trouvé l'introuvable Jacques Collin. Il allait être proclamé l'un des plus habiles juges d'instruction. Aussi laissait-il son prévenu tranquille. Mais il étudiait ce silence de consternation. Il voyait les gouttes de sueur s'accroître sur ce visage décomposé, grossir et tomber enfin mêlés à deux ruisseaux de larmes. « Pourquoi pleurer, monsieur de Rubempré ? Vous êtes, comme je vous l'ai dit, l'héritier de mademoiselle Esther, qui n'a pas d'héritier ni collatéraux ni direct, et sa succession se monte à près de 8 millions, si l'on retrouve les 750 000 francs égarés. » Ce fut le dernier coup pour le coupable. De la tenue pendant 10 minutes, comme le disait Jacques Collin dans son billet. Et Lucien atteignait au but de tous ses désirs. Il s'acquittait avec Jacques Collin. Il s'en séparait. Il devenait riche. Il épousait mademoiselle de Grandlieu. Rien ne montre plus éloquemment que cette scène la puissance dont sont armés les juges d'instruction par l'isolement ou par la séparation des prévenus. Et le prix d'une communication comme celle qu'Asie avait faite à Jacques Collin. « Ah, monsieur !» répondit Lucien, avec l'amertume et l'ironie de l'homme qui se fait un piédestal de son malheur accompli. « Comme on a raison de dire dans votre langage, subir un interrogatoire. Entre la torture physique d'autrefois et la torture morale d'aujourd'hui, je n'hésiterai pas pour mon compte. Je préférerais les souffrances qu'infligeait jadis le bourreau. « Que voulez-vous encore de moi ? » reprit-il avec fierté. « Ici, monsieur, dit le magistrat, devenant rogue et narquois, pour répondre à l'orgueil du poète, moi seul ai le droit de poser des questions. J'avais le droit de ne pas répondre, dit en murmurant le pauvre Lucien, à qui son intelligence était revenue dans toute sa netteté. Greffier, lisez au prévenu son interrogatoire. Je redeviens un prévenu, se dit Lucien. Pendant que le commis lisait, Lucien prit une résolution qui l'obligeait à caresser M. Camusot. Quand le murmure de la voix de Coquart cessa, le poète eut le tressaillement d'un homme qui dort pendant un bruit auquel ses organes se sont accoutumés et qu'alors le silence surprend. Vous avez assigné le procès-verbal de votre interrogatoire, dit le juge. Et me mettez-vous en liberté ? Demanda Lucien, devenant ironique à son tour. Pas encore, répondit Camusot. Mais demain, après votre confrontation avec Jacques Collin, vous serez sans doute libre. La justice doit savoir maintenant si vous êtes ou non complice des crimes que peut avoir commis cet individu depuis son évasion, qui date de 1820. Néanmoins, vous n'êtes plus au secret. Je vais écrire au directeur de vous mettre dans la meilleure chambre de la pistole. Y trouverai-je ce qu'il faut pour écrire ? On vous y fournira tout ce que vous demanderez. J'en ferai donner l'ordre par l'huissier qui va vous reconduire. Lucien signa machinalement le procès-verbal et il en paraffa les renvois en obéissant aux indications de Coquart avec la douceur de la victime résignée. Un seul détail en dira plus sur l'état où il se trouvait que la peinture la plus minutieuse. L'annonce de sa confrontation avec Jacques Collin avait séché sur sa figure les gouttelettes de sueur. Ses yeux secs brillaient d'un éclat insupportable. Enfin, il devint, en un moment rapide comme l'éclair, ce qu'était Jacques Collin, un homme de bronze. Chez les gens dont le caractère ressemble à celui de Lucien et que Jacques Collin avait si bien analysé, ces passages subis d'un état de démoralisation complète à un état quasiment métallique, tant les forces humaines se tendent, sont les plus éclatants phénomènes de la vie des idées. La volonté revient, comme l'eau disparue d'une source. Elle s'infuse dans l'appareil préparé pour le jeu de sa substance constitutive inconnue. Et alors, le cadavre se fait homme, et l'homme s'élance plein de force à des luttes suprêmes. Lucien mit la lettre d'Esther sur son cœur avec le portrait qu'elle lui avait envoyé. Puis il salua dédaigneusement M. Camusot et marcha d'un pas ferme dans les corridors entre les deux gendarmes. C'est un profond scélérat, dit le juge à son greffier, pour se venger du mépris écrasant que le poète venait de lui témoigner. Il a cru se sauver en livrant son complice. Des deux, dit Coquart timidement, le forçat est le plus corsé. Je vous rends votre liberté pour aujourd'hui, Coquart, dit le juge. En voilà bien assez. Renvoyez les gens qui attendent, en les prévenant de revenir demain. Ah! Vous irez sur le champ, chez monsieur le procureur général, savoir s'il est encore dans son cabinet. S'il y est, demandez un moment d'audience pour moi. Oh, il y sera, reprit-il après avoir regardé l'heure à une méchante horloge en bois peinte en vert et à filets dorés. Il est 3:15.